vie après normale. Pascal Colombani, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour la radio Transistor. Donc, vous avez derrière vous une longue carrière dans l'industrie de l'énergie, puisque vous avez été à la tête de nombreuses entreprises et organismes publics. Vous êtes actuellement président du conseil d'administration de Valeo, équipementier automobile qui emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. Vous êtes également administrateur chez Alstom et Technip, une société d'ingénierie pétrolière. Vous travaillez aussi en tant que conseiller chez A.T. Kearney et J.P. Morgan. Donc A.T. Kearney, c'est une entreprise de conseil en stratégie industrielle. Pourtant, vous avez commencé une carrière académique classique. Vous entrez à l'École normale supérieure de Saint-Cloud en 1965, après une classe préparatoire au lycée Condorcet. Vous obtenez l'agrégation de sciences physiques 4 ans plus tard, avant de vous lancer dans une thèse de physique nucléaire et de débuter une carrière de chercheur au CNRS. À cette époque, la recherche était-elle pour vous une vocation ou est-ce que c'était simplement le débouché logique de votre carrière de normalien ?
Alors, il fallait voir qu'à l'époque, en tout cas à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, la recherche n'était pas un débouché évident. La plupart des élèves allaient dans l'enseignement. Et moi, je n'avais pas du tout, j'ai jamais eu envie vraiment d'aller dans l'enseignement. J'avais, par mes parents, mon père surtout, qui était professeur d'université, j'avais l'image de la recherche. Et en fait, il m'avait un peu poussé d'ailleurs. Hein. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé dans la recherche au CNRS. Voilà.
En fait, c'était ma question suivante. Est-ce que votre milieu familial vous avait poussé vers une carrière de chercheur ou d'enseignant ?
Oui, certainement. Oui, certainement.
Votre père était professeur d'université en physique.
Oui.
Simplement, vous effectuez un stage postdoctoral au laboratoire Lawrence Beckerley à l'Université de Californie, c'est ça, entre 1974 et 1976. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez retenu de cette période passée aux États-Unis ?
Alors ça, si vous voulez, ça a été un des déclics dans ma vie. En fait, la carrière de chercheur à l'Institut de physique nucléaire d'Orsay, bon, j'ai fait une thèse qui était d'ailleurs intéressante, hein, c'était sur les noyaux atomiques super lourds, etc. Bon, je n'entre pas dans les détails. Mais tout de suite après, j'ai demandé à partir aux États-Unis. À l'époque, c'était assez facile, hein, c'est pas du tout comme maintenant. On entre au CNRS juste après l'agrégation et on était déjà attaché de recherche, donc chargé de recherche, quand je crois d'ailleurs, me souvenir, quand je suis parti aux États-Unis. Donc c'était un débouché normal. Je suis arrivé à Berkeley et là, j'ai découvert un autre monde, hein, véritablement un autre monde, à la fois au point de vue de la recherche, au point de vue de la façon dont les gens vivaient. Alors évidemment, Berkeley en 74-75, c'était encore la guerre du Vietnam, c'était après 68, c'était encore assez pittoresque, je dois dire. C'était vraiment sympa, donc on est arrivé là avec ma femme, on avait notre petite fille, qui était toute petite à l'époque, et donc on a vécu deux années intenses, sympathiques, et en plus très prolifiques du point de vue recherche. Et en même temps, c'est là que j'ai découvert que pour mener de la recherche au plus haut niveau, parce que c'est ce qu'on faisait à Berkeley, n'est-ce pas ? Et c'est là que j'ai réalisé que, bien sûr, je pouvais le faire. Probablement, je n'étais pas plus mauvais qu'un autre, peut-être même un peu meilleur. Mais je me pouvais aussi faire autre chose. Et donc, c'est là, quand je suis rentré en France, au bout de 2 ans, que je me suis un peu interrogé sur ce que j'allais faire.
Vous travaillez ensuite 2 années au CNRS en France en tant que chargé de recherche. En 1978, votre carrière connaît un tournant considérable parce que fini le CNRS, vous êtes employé chez Schlumberger, une multinationale de services dans le domaine des produits pétroliers. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui a fait déclic pour vous en fait à cette période-là ? Est-ce que c'est une occasion que vous avez saisie ou est-ce que c'était un choix mûrement réfléchi que d'abandonner la recherche vraiment théorique au CNRS au profit de la recherche et du développement dans l'industrie ?
Quand on fait des changements comme ça, c'est forcément qu'on n'est pas 100% confortable à l'endroit où on est. Sinon, on reste là et puis on continue, on fait une carrière. Bon. Mais en même temps, je savais que je pouvais aussi faire autre chose et qu'il y avait autre chose qui se passait dans le monde. Et ça, j'avais appris ça à Berkeley, en fait. Dans la vie, il y a des trains qui passent et on décide de monter dedans ou pas, quoi. Hein. Donc j'étais là, j'avais les oreilles tendues, je dirais, mais je cherchais pas particulièrement. Hein. Et il s'est trouvé qu'à l'époque, Schlumberger avait comme patron de la recherche un normalien qui cherchait des gens avec ce profil. Donc des gens qui avaient une thèse, parce qu'ils connaissaient la valeur de la thèse dans l'entreprise, qui avait un passé, une expérience internationale. Donc je cochais toutes les cases. En fait, ils m'ont fait une offre. La première, j'ai refusé. La deuxième, j'ai accepté.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différences entre le fait de travailler en tant que chercheur au CNRS, donc dans le domaine public et dans la recherche pure, et dans l'entreprise avec la recherche davantage appliquée ?
Vous parlez de la recherche dans l'entreprise ou simplement de l'entreprise en général ? Parce que si vous voulez, quand je suis arrivé chez Schlumberger, c'était un autre monde. Hein. C'était un autre monde et en même temps, c'était un monde à la fois... Schlumberger, d'ailleurs, il faut bien voir que ce n'est pas n'importe quelle entreprise non plus. Hein, c'était une entreprise multinationale. Schlumberger et le CNRS, ça n'avait évidemment absolument rien à voir. Ceci dit, la formation de chercheurs est excellente, en fait, dans ce genre d'entreprise. Parce que quand on est au CNRS, en particulier autour des gros instruments, on apprend tout. On apprend à discuter avec l'atelier, donc avec les syndicats. On apprend à travailler, on a le travail d'équipe. On apprend le marketing parce qu'il faut vendre son travail dans les congrès, les publications, etc. Donc en fait, quand on est un peu adaptable, moi j'ai pas eu trop de difficultés à m'adapter chez Schlumberger finalement. Quoi que ce soit, quand même, un monde absolument différent. Je vais vous raconter une anecdote, c'est que j'ai été payé déjà 5 ou 6 fois plus que ce que j'avais pu... être payé sur CNRS, donc bon, déjà ça modifiait beaucoup de choses, hein. Et puis ils m'ont ouvert le monde, hein. Ils m'ont ouvert le monde, c'est-à-dire que bien sûr j'avais été à Berkeley, bien sûr le CNRS m'avait envoyé à droite à gauche pour des petites missions, mais là c'était une vraie société multinationale, et ça ça changeait tout.
Donc justement, à propos de l'ouverture internationale, vous restez près de 20 ans dans cette entreprise, entre 78 et 97. Donc après Clamart, où vous débutez votre carrière chez Schlumberger, vous êtes nommé à Denver dans le Colorado, puis à Ridgefield dans le Connecticut, puis retour à Paris, Montrouge, où vous êtes directeur du centre de recherche de Schlumberger sur place. Est-ce que cette mobilité à la fois géographique et au sein de l'entreprise, est-ce que c'est quelque chose que vous recherchiez ?
Ben, je le recherchais, oui, en étant chez Schlumberger. De toute façon, je savais que ça allait arriver parce que c'était la politique de la société. Pour les gens qu'elle considérait comme ayant un certain futur chez eux, de les tester à différents endroits. Je dirais cette société est connue pour jeter elle jette les gens à l'eau, elle voit s'ils savent nager. Hein. J'ai su nager quand on m'a, au bout de 4 ans d'ingénierie, je dirais, à Clamart, on m'a envoyé comme directeur du marketing pour tout l'ouest des États-Unis. Donc c'était quand même un challenge, hein, surtout que l'anglais, bien sûr, je parlais un peu, mais enfin, pas si bien que ça quand même, au bout du compte. Et puis finalement, j'y suis resté 2 ans à Denver et 4 ans ensuite près de New York. Et là, c'était une expérience extraordinaire. Je dirais donc, j'ai appris beaucoup de choses. En même temps, ce n'était pas tous les jours facile. On a surmonté beaucoup d'épreuves. C'était la grande crise du pétrole de 86 qui est arrivée à ce moment-là. La crise d'aujourd'hui n'est rien du tout à côté de ça. On a vécu aussi des moments difficiles. Je suis ressorti de là vraiment blindé. Hein. Voilà. Ensuite, ils m'ont envoyé dans l'autre partie de la compagnie, comme vous l'avez mentionné, qui n'était plus dans le pétrole, mais qui était dans tout ce qui n'était pas le pétrole, justement chez Schlumberger, pour que j'aie une certaine connaissance de ce domaine-là aussi. Et enfin, j'ai terminé en partant vraiment... Alors là, j'avais un job qui était un peu hybride. J'étais directeur des affaires européennes à Bruxelles, c'est-à-dire en fait une sorte d'ambassadeur auprès des différents programmes européens. Et puis en même temps, j'étais quand même resté très proche du chairman, du président, de CEO qui m'utilisait pour toutes sortes de choses, par exemple faire le plan stratégique de recherche et de développement, ou faire regarder un peu éventuellement des acquisitions, des choses en fait qui étaient extrêmement intéressantes parce que j'ai vu comment fonctionnait une très grande société à ce niveau-là.
Pour revenir sur la mobilité, est-ce que ça implique des sacrifices ? Votre épouse et vos enfants vous suivez dans tous ces déplacements, ouais. Comment s'est déroulé le retour en France après avoir vécu aux États-Unis ?
Si vous voulez, alors il fallait voir que, bien sûr que Schlumberger nous déplaçait souvent, mais d'un autre côté, il savait aussi comment faire, c'est-à-dire il ne regardait pas trop à la dépense en ce qui concernait l'installation, etc. Mais il est clair que ma femme a souffert de cette situation, parce qu'elle n'a pas pu elle-même développer une carrière. Elle a fait des choses, hein. Partout où elle était, elle a réussi à s'intégrer et à faire des choses, mais je veux dire, elle n'a pas pu développer une carrière comme moi je le faisais. Par contre, les enfants, eux, alors là, ils sont non seulement ils sont devenus extrêmement internationaux, pour eux, le monde, c'est chez eux, quoi. Hein. Ils nous ont toujours dit que finalement, ce qu'on leur avait donné de plus utile, c'était de parler un anglais absolument courant, pour les deux garçons, avec un bon accent américain, pour notre fille, avec, comme elle avait resté, elle est allée ensuite en Grande-Bretagne, et où elle a découvert qu'avoir un accent américain, c'est synonyme de débilité mentale. Donc, là, elle a acquis un accent qui est un peu plus mid-Atlantique. Voilà.
Vous l'avez rappelé, en 92, vous êtes promu directeur des affaires européennes chez Schlumberger. Ensuite, vous devenez président et directeur général de la filiale japonaise. Donc, vous êtes muté à Tokyo. Donc, au fil des promotions, vous avez gravi quand même les échelons de l'entreprise. Est-ce que dans cette progression, les compétences ou les connaissances que vous aviez acquises à l'ENS dans la recherche vous ont été utiles ou pas ?
Oui, bien sûr que ça m'a été utile, si vous voulez. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui était vraiment important, c'était l'esprit de méthode qu'on acquiert à l'ENS et au CNRS, d'une certaine façon, surtout à l'ENS, je dirais. C'est l'esprit de méthode, comment prendre un problème et comment arriver à le résoudre, finalement. C'était surtout ça. Et puis, encore une fois, si vous voulez, dans la vie, ce qui compte, finalement, c'est aussi d'être adaptable. Hein. L'ENS, là, elle n'a pas eu une influence extraordinaire. Par contre, au CNRS, oui, j'ai appris à être adaptable parce que c'est quand même pas très simple de sortir du lot là-dedans. Hein. Et il fallait aussi continuellement, ne serait-ce que pour faire sa thèse, trouver son sujet, etc., manifester des capacités d'aiguë. Assez aigu.
On apprend aussi quand même sur le tas dans l'entreprise au gré des rencontres, des occasions, des projets.
Je reste convaincu que la formation par la recherche, quelle que soit la discipline, finalement, c'est excellent pour l'entreprise. Hein. Ce que beaucoup d'entreprises, dont beaucoup d'entreprises ne sont pas convaincues d'ailleurs, hein, parce qu'ils ne savent pas. Hein. Mais moi, je sais. Hein. J'ai fait les deux, je sais. Voilà.
En fait, ça rejoint un peu ma question, mais la direction des grandes entreprises industrielles, souvent, ça semble davantage être un débouché de polytechniciens ou d'élèves qui sortent des grandes écoles d'ingénieurs. Est-ce que être normalien dans ce milieu-là, c'est habituel ?
Alors, ça se répand de plus en plus. Il est vrai que les polytechniciens, en particulier le corps des mines et dans une moindre mesure le corps des ponts, tendent à essayer d'établir un monopole, dans les grandes entreprises en tout cas. Ils ont d'ailleurs un parcours de carrière qui est tout tracé, qui est toujours le même. On passe par un ministère, ensuite voilà, on arrive dans une entreprise et puis on grimpe comme ça. C'est loin d'être la meilleure formation. D'ailleurs, on voit les résultats, hein, qui sont quelquefois bons et quelquefois fort médiocres. Encore une fois, ce qui compte, c'est d'être adaptable. Il ne suffit pas d'être normalien, polytechnicien, énarque, etc. Ce qui compte, c'est de ne pas avoir d'a priori dans la vie et c'est de savoir s'adapter à des situations nouvelles et international et multinational, et surtout à des cultures. Moi, quand je suis parti au Japon, le Japon, je ne connaissais pas, j'avais été une ou deux fois. Bon, il y a 6 mois qui ne sont pas si faciles que ça, quand même. Hein. Et puis après, une fois qu'on a franchi la barrière de potentiel, là, on a appris, on se cultive, on essaie de comprendre, etc. etc. Et le Japon, c'est quand même un cas assez limite, hein. C'est pas évident. Donc, c'était encore un autre sujet, ça. Aujourd'hui, tout ça paraît simple. Il faut voir que c'était il y a 25 ans, 30 ans. Quoi. Alors, les normaliens, on commence à voir de plus en plus. Alors, le problème des normaliens, c'est qu'ils ne forment pas de lobby comme les X-Mines. Si, il y a un réseau. Il y a des réseaux, mais ils sont informels. Il n'y a pas, vous avez au corps des mines, vous avez un manager du corps qui essaie de placer les gens. Bon, je ne reviendrai pas sur ce genre de pratique que je trouve totalement débile. Mais enfin, bon. Mais vous savez, les réseaux existent partout. En Grande-Bretagne, c'est Oxbridge. Aux États-Unis, c'est la mafia Harvard, MIT, etc. Bon, mais ou Stanford, ou bon, Berkeley. Bon, mais en France, c'est vraiment organisé d'une façon qui fait en sorte que ça en devient non improductif. Donc, vous avez les X-Mines, vous avez les Énarques, et les Normaliens, eux, ils ne sont pas organisés comme ça. Hein. En plus, les Normaliens, entre eux, ils ne sont pas particulièrement sympathiques. Hein. Je veux dire, il n'y a pas un esprit de corps extraordinaire. Donc vous avez, ceci dit, beaucoup d'exemples, en particulier des jeunes femmes, qui font normal, qui font l'ENA quelquefois après, qui font le corps des mines quelquefois après. Et ça, je dois dire que c'est souvent les tout meilleur. Hein, c'est-à-dire Normal Mine, c'est vraiment une filière d'excellence. Chez Valeo, on en a 3 ou 4. Isabelle Cocher, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la présidente de GDF Suez, c'est une Normal Mine. Mais ce qui est amusant, c'est de voir les femmes émerger.
C'est encourageant pour nos auditeurs. En 1998, vous êtes nommé directeur de la technologie au ministère de l'Éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Donc pendant deux ans. Vous renouez avec la fonction publique, et en particulier avec la recherche et l'enseignement, du coup. Est-ce que votre expérience dans l'entreprise Schlumberger vous a donné envie de changer les choses dans le domaine de la recherche à un niveau plus élevé ?
Il faut que je vous raconte d'ailleurs comment ça s'est passé, parce qu'en fait, j'étais à Tokyo, tranquille, on vivait bien, je veux dire, avec plein de stock options, etc. Hein. Et puis, tout d'un coup, il y a le ministre Allègre qui me téléphone. Et il se trouvait que je connaissais un petit peu pour d'autres raisons. Et il me dit, écoute, tu sais, là, je suis devenu ministre, on essaie de, avec Strauss-Kahn, avec d'autres, là, on essaie de moderniser le pays, on a besoin de gens comme toi qui connaissent un peu l'économie et l'industrie et qui connaissent le monde académique. Alors bon, moi je commençais par dire non, hein, parce que je dis écoute, franchement, tes 35 heures et tout ça, ça m'excite pas vraiment. Il m'a dit mais non, mais t'as rien compris, ça c'est pour l'extérieur, vraiment. Bon, donc au bout de quelques mois, après plusieurs échanges avec mon patron, le chairman de Schlumberger, finalement, lui me dit écoute. C'est sûr, peut-être bien pour toi, c'est peut-être bien pour nous, vas-y, puis tu peux toujours revenir. Donc j'y suis allé. J'ai passé 2 ans, en fait, à la direction de la technologie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la direction générale de la recherche et de la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un organisme, c'est très intéressant. Moi, je ne connaissais rien. J'arrivais avec mon expérience internationale, mais je n'avais pas de réseau en France. Hein, j'étais parti depuis 20 ans. Et en fait, je l'ai créé. Et j'avais la tutelle d'organismes comme le CEA, le CNRS, le CNES, etc. Donc des organismes qui, le CEA et le CNES en particulier, le BRGM, qui n'étaient pas si éloignés que ça de l'industrie. Et qui avaient des grands fournisseurs industriels et également qui fournissaient à des grands industriels. Et donc j'étais assez à l'aise avec ce genre d'organisme. Et en fait, ça c'était un des aspects du job. L'autre aspect c'était de susciter, d'essayer de donner un cadre nouveau pour la création de start-up et essayer également de faire en sorte que les universités s'intéressent non plus elles-mêmes à se regarder le nombril, mais également à créer de l'activité et de l'emploi. Hein. Et donc les aider en créant des filiales de statut privé qui pourraient aider à créer des entreprises, aider les chercheurs à créer des entreprises. On a modifié le statut des chercheurs pour faire ça aussi. Donc tout ça, c'était assez intéressant. Bon, au bout de 2 ans, j'avais fait le tour. J'ai été revoir le ministre Allègre qui me dit, je lui ai dit, écoute, maintenant, bon, je crois que j'ai fait le tour, c'était bien, sympa, j'ai connu des agents intéressants, mais maintenant, je vais peut-être retourner chez Schlumberger, voir s'ils n'ont pas un placard doré quelque part, ou mettre là. Il m'a dit, non, attends, parce que tu sais, là, le CEA, l'administrateur général actuel, je crois qu'il va aller chez EDF, et donc, peut-être que, après, il m'a dit, ça, il a eu ce mot extraordinaire, il m'a dit, après tout, tu es un physicien nucléaire. C'est vrai, Et donc j'ai été nommé administrateur général du CEA.
En 1999, donc on vous êtes nommé administrateur général et président du conseil d'administration au commissariat de l'énergie atomique, donc le CEA. Donc c'est le plus grand organisme public en matière de recherche scientifique sur l'énergie nucléaire et sur les énergies alternatives aussi, ouais, plus récemment. Donc pour vous, qu'est-ce que cela représentait à l'époque et, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des projets que vous avez menés à bien au sein de cet organisme ?
Il faut voir que quand j'étais quand même un ovni, moi, hein, dans ce milieu-là, c'est-à-dire quelqu'un qui venait de la recherche, qui venait même pas de la recherche, de l'industrie privée, quand je suis arrivé à la direction de la technologie, les gens me regardaient comme un ovni, absolument, quoi. Hein. Et puis au CEA, bon, ils étaient un peu habitués à me voir, mais enfin, quand même, j'étais quand même quelque chose d'une quantité inconnue. Ce que j'ai fait, je me suis souvenu un petit peu de Berkeley, où le Lawrence Berkeley Lab, où j'avais travaillé, était en fait un laboratoire du département de l'énergie américain qui est l'équivalent du CEA. Et je me souvenais que déjà à l'époque, le département de l'énergie se préoccupait non seulement du nucléaire, mais également de qu'on pouvait tirer du nucléaire. Parce que par le nucléaire et pour le nucléaire, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus, hein. Et donc, on a fait un certain nombre de choses importantes. Je me suis D'abord, dans le domaine de l'énergie nucléaire, les plus grands projets qu'on a lancés à ce moment-là, c'est le projet Génération 4 de nouveaux types de réacteurs nucléaires. Pour vous donner une idée, l'EPR qu'on a tant de mal à construire, c'est un Génération 3. Mais nous, on s'est dit, moi je me disais, le Génération 3, c'est l'affaire de l'industrie maintenant, la recherche est faite, donc on va passer à la Génération 4. Bon, donc ça a été le grand projet nucléaire qui a été lancé. En même temps, il y avait beaucoup de choses qui étaient nées du nucléaire, mais qui avaient acquis une existence par elles-mêmes. Par exemple, tout ce qui est micro, nanotechnologie, etc. J'ai décidé de mettre beaucoup d'argent, à Grenoble en particulier, sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, je vois avec plaisir qu'on a réussi à créer un véritable centre de recherche technologique dans ce domaine-là, en particulier autour de Grenoble, mais pas seulement, à Saclay, etc. Il y avait également des travaux intéressants sur... Bon, tous ces travaux-là, en particulier micro-nano, ont eu des retombées sur les technologies d'énergie alternative. Hein. Mais il y avait aussi de la recherche un peu plus fondamentale qui a été faite. En particulier, à l'époque, on travaillait sur les composants du grand collisionneur d'Hadron du CERN. Et puis, il y avait tous les aspects militaires aussi. Hein, et dont je ne vais pas trop parler ici, mais je veux dire, c'est encore d'ailleurs une très grande activité du CEA de faire en sorte que la force de dissuasion soit opérationnelle. Donc, à l'époque, comme on avait arrêté les essais nucléaires, il fallait passer à une nouvelle phase, qui était une phase qu'on appelle la phase de simulation. On ne fait plus d'essais nucléaires que dans le Pacifique ou ailleurs, et maintenant on fait tout ça par à l'aide de gigantesques instruments qui simulent en quelque sorte une explosion nucléaire et avec le calcul de haute performance qui va avec. Et donc tout ça c'était, je dirais en toute modestie, que le CEA était un tournant et qu'on a réussi à lui faire prendre ce tournant, et d'ailleurs les administrateurs généraux qui m'ont succédé n'ont pratiquement rien modifié. Ils ont continué à faire le travail, mais ils n'ont pas modifié ni l'organisation ni les orientations.
C'est le projet ITER aussi à l'époque.
Alors le projet ITER, ça, j'ai jamais été un très grand supporter. Il a été lancé, c'est moi qui l'ai lancé, tout à la fin de mon mandat. Je me suis toujours posé des questions sur l'importance du financement qui était consacré à ITER par rapport à ce qui était consacré au reste, si vous voulez. Bon, mais je pense que si j'étais resté, j'aurais probablement... Et d'ailleurs, il y avait beaucoup d'interrogations, y compris au sommet de l'État, y compris chez Chirac, sur l'intérêt réel d'ITER, autre que d'employer des chercheurs et de couler du béton. Hein, pour faire. Et ça, ces interrogations sont encore présentes aujourd'hui. Bon, ceci dit, le projet vit sa vie, il a déjà doublé son budget par rapport à ce qui était prévu, enfin, truc habituel, quoi. Voilà.